Merci Pascal Perrineau, merci Monsieur le Professeur. Alors, on va prendre quelques questions, quelques interventions. Il y a un micro qui va circuler et vous faites signe pour intervenir sur ce sujet, sur cette interpellation, mais aussi sur ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Quelle est la première main qui se lève ? Voilà, le micro, il monte de ce côté aussi.
Monsieur Beck, faire du sport.
Oui, vous avez le micro, vous présentez, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, François Beck, maire de Frontenac.
Il est où ?
Vous dites vouloir réhabiliter l'usage du référendum. Permettez-moi d'être un peu dubitatif à ce sujet. La dernière fois qu'on utilisait le référendum en France, c'était pour l'adoption de la ratification du traité européen. La France a voté non, et finalement, ça a été ratifié par l'Assemblée. Donc un tour de passe-passe institutionnel qui va à l'encontre de la volonté du peuple. Et puis, plutôt qu'un référendum, pourquoi ne pas utiliser des sondages ? Il y en a tous les jours, et ça coûte beaucoup moins cher.
Merci. Alors, le micro au même niveau, mais de l'autre côté, il y avait une main. Voilà, vous l'avez ? Allez-y.
Oui, bonjour, Bernard Delpech, conseiller municipal de Cahors. J'aurais une question une double question sur la fatigue démocratique. Le chef de l'État a choisi de nommer Michel Barnier. J'ai rien contre l'homme en particulier. Mais le fait de choisir le représentant d'un parti à l'air ultra minoritaire, qui de plus a refusé d'exercer ou de pratiquer le front républicain. Et on arrive finalement à la désignation d'un gouvernement qui, pour moi, n'est pas tout à fait un gouvernement, mais un remaniement. Et ma question, ou mes deux questions, est-ce que, justement, pour la prochaine fois, il me semble que cette nomination ou cet exercice présidentiel pose la question pour les électeurs, et la mienne, c'est qui ira voter la prochaine fois ? Et est-ce que ce n'est pas jeter dans les bras ces électeurs vers le Front National et de renforcer à la fois la société de défiance et la tentative autoritaire, comme vous l'avez présenté tout à l'heure ? Merci.
Merci. D'autres questions ou demandes de prise de parole ? On va essayer de les rassembler, puisque le temps nous est un peu contraint ce matin. Au deuxième rang,
monsieur,
ici, et puis... Levez la main ceux qui souhaitent intervenir. Il n'y ait pas de frustration. Allez-y, puisque le micro est là. Voilà.
Il y a une dame là-haut.
Et puis après, on redescendra de ce côté.
Voilà, Angèle Prévy, le maire de Biars-sur-Cère. Voilà, je voulais vous demander, avec la montée du Rassemblement national, si nous aussi, dans les communes, alors qu'on a déjà, lors des élections législatives, ben évidemment des forts taux pour ce parti politique, si nous étions à terme menacés aussi dans les communes d'avoir davantage de maires et de conseillers municipaux qui seraient du Rassemblement national. Je vous remercie.
Merci. Allez-y. Et puis après au deuxième rang, et on laissera répondre Pascal Perrineau. Oui, vous avez la parole, madame.
Je suis adjointe à la mairie de Saint-Médard. En fait, c'est une remarque un peu plus générale. On dit qu'il y a tant des problèmes avec l'immigration très importants. Et en même temps, il y a des études qui montrent que ce sont des personnes qui ne votent pas qui, elles, vont aller dans la rue pour contredire cet effet d'être anti-immigration. Quand il y a un gros problème, en fait, il va y avoir aussi une contrepartie de manifestation pour défendre un peu la démocratie. Et pourtant, ce sont des personnes qui ne votent pas, en général. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu... un problème
paradoxal, mais d'autres formes d'engagement. Voilà. Et puis, une dernière intervention au deuxième rang.
Oui, bon, bonjour. Francesco Testa, conseiller municipal à Cahors. La question que je me pose, c'est ce sentiment de défiance qui touche en particulier les jeunes. Est-ce qu'il n'est pas lié, pour l'essentiel, au fait que notre génération va laisser un monde en bien plus mauvais état que nous l'avons reçu? Et cette prise de conscience-là, à mon avis, participe largement à ce sentiment de défiance. En ce qui concerne l'immigration, deuxième observation, c'est que est-ce que ce n'est pas lié au fait que médiatiquement, on parle des 10 ou 15 brûleurs de voitures ou pire encore, et pas de ces dizaines, centaines de jeunes immigrés qui réussissent, qui sont avocats, qui sont entrepreneurs, qui sont médecins, etc. Et le focus qui est mis journalièrement, surtout dans certains médias, c'est sur ces jeunes-là.
Voilà. Merci. Bon, on va essayer de regrouper. On voit, il y a des blocs de questions, d'interventions. Et je vais vous demander cet exercice de façon concise. Oui. Alors, on peut peut-être prendre d'abord la confiance, l'engagement, la citoyenneté et les rapports aux institutions.
Alors, si vous voulez, rapidement, nous avons combien de temps ?
10 minutes ?
Non, 5 minutes.
6.
Bien, formidable. Alors, le référendum. Le référendum de 2005, ça ne remet pas en cause l'instrument référendaire. Ça remet en cause la réaction du pouvoir législatif à la suite du non au référendum. Hein ? Ça ne remet pas en cause l'objet même du référendum et son résultat. C'est ce que les élus ont décidé d'en faire après. Les sondages, c'est pas à moi que vous allez dire que les sondages, ça sert à rien. Ce sont des instruments d'études, quand ils sont faits dans des conditions sérieuses, extrêmement valables, mais on ne peut pas remplacer le référendum par le sondage. La souveraineté populaire ne peut s'exprimer que dans des élections ou dans le référendum. Voilà, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais je sais que c'était une tentation. Vous savez, Charles Pasqua, quand il y avait des problèmes de choix du candidat à l'intérieur du RPR, disait, ben, écoutez, pourquoi pas, avec son accent corse, remplacer ça par les sondages. Voilà. Ben, et puis les sondages, ça évolue, en effet. Hein, ça évolue. Bien. Le gouvernement Michel Barnier. Le gouvernement Michel Barnier, si vous voulez, deux remarques là-dessus. Quand le régime devient ce qu'il devient, de plus en plus parlementaire, réapparaît ce que l'on appelait sous la 4e République le rôle des partis charnières. Vous savez, de très nombreux présidents du Conseil sous la 4e République étaient issus de petits partis. Et parfois de tout petits partis, qui étaient des partis charnières. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils étaient au cœur de coalitions. Les radicaux en ont bénéficié, les indépendants en ont bénéficié, le MRP en a bénéficié, vous voyez, voilà, tout le monde en a bénéficié. Hein. Et ils sont au cœur de coalitions, regardez ce qui se passe parfois chez nos amis européens qui ont des régimes parlementaires, les partis charnières sont parfois tout à fait décisifs. Et Barnier a l'avantage d'appartenir à ce qui est devenu, ça ne fera pas plaisir toujours à des grands leaders de LR, mais voilà, c'est devenu un parti charnière. LR. Et puis, deuxième remarque. Alors, j'ai peut-être enfroissé certains, mais c'est pas grave. L'histoire, Huguette Belot, Lucie Castet, Thierry Baudet et les autres, en disant, mais nous avons la majorité. Je dis toujours à ceux-là, parce que ce sont des amis, mais est-ce que vous avez observé que le premier acte fort de la nouvelle Assemblée nationale, ça a été l'élection d'une présidente ? Il y avait bien un candidat, M. Chassaigne, homme bien sous tout rapport, qui était le candidat du nouveau Front populaire. Et il a été battu, environ d'une quinzaine de voix, si ma mémoire est bonne. Il a été battu, et celle qui a été élue, est tout à fait représentative, Madame Braun-Pivet, de la coalition qui est aujourd'hui au pouvoir. donc n'était pas forcément majoritaire, ce que la presse a répété parce qu'ils ne travaillent pas assez, n'était pas majoritaire, qui on pouvait... est-ce que vraiment le NFP était majoritaire? Là-dessus, non, il n'était pas majoritaire. Et le RN encore moins, puisque Chenu arrivait en troisième position. Bien. Donc, bon, qui ira voter? Vous savez, l'abstention, elle a été pendant très longtemps l'abstention d'indifférence. Ceux qui s'abstenaient, c'était des gens qui n'en avaient rien à cirer. Voilà. On n'avait rien à cirer, ça ne les intéresse pas. Bon. Ça ne bouge pas. Les indifférents, ça ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est les protestataires. C'est-à-dire ceux qui utilisent l'abstention comme moyen de protestation et qui vont sans cesse faire des itinéraires entre l'abstention et la protestation. Je suis abstentionniste, ah, il y a Mélenchon qui parle fort, je vais aller un coup Mélenchon. Il y a Bardella, là, ce jeune, bien sous tout rapport, propre derrière les oreilles, etc. Je vais aller voter pour lui. Hein? Voilà. Ça, si vous voulez, c'est typique du nouvel abstentionnisme. Et c'est un abstentionnisme, attention, parce que c'est un abstentionnisme qui a un potentiel politique. C'est des gens qui veulent dire leur mot et qui le diront. Ils le diront éventuellement au municipal et ils le diront à la présidentielle.
Alors la question sur les municipales et le Rassemblement national...
Alors les municipales, oui, vous êtes sous influence, oui, bien sûr. Hein. Là, je reviens d'une réunion avec la majorité du département du Nord qui, pour les prochaines départementales, se dit « mais ça va être une catastrophe pour nous ». Alors je les ai rassurés en disant que ça va être une catastrophe, surtout pour les cantons communistes. Parce que j'avais regardé les 41 cantons, j'avais regardé dans tous les cantons. Et alors là, les communistes, là, ça va être terrible pour eux, les prochaines départementales. Parce que là, ils vont se faire mais embarquer par le RN, parce que le RN est déjà, vous voyez, à 60% au premier tour. Alors bon, mais on est dans le Nord, on est dans le Pas-de-Calais, on n'est pas dans le Lot. Donc rassurez-vous. Et puis, le RN, on l'a vu au second tour des législatives, a encore besoin de faire les preuves qu'il est un parti de pouvoir. Les Français n'en sont pas persuadés. Quand il s'agit de confier les clés des choses importantes, l'Élysée, Matignon, la mairie, au RN, là, les gens hésitent. Parce qu'ils se disent, voilà, je partage ces thèmes, etc. Mais celle ou celui qui représente ce parti, j'y crois pas. J'y crois pas, il n'est pas capable. Hein, et parfois, ils n'ont pas tort. Hein, quand on voit le destin de grandes mairies du Front National, souvenez-vous, Toulon, Vitrolles, bon, ça a été des expériences plus ou moins dramatiques. Fréjus, aujourd'hui, ça laisse à voir. Perpignan, c'est autre chose. Là, c'est une réussite, certainement pour le Rassemblement National. Mais vous voyez, ça se compte sur les doigts, même pas d'une demi-main.
Alors, vous avez évoqué les abstentionnistes, et puis on dit mais il y a d'autres formes d'engagement aussi. Oui. Les gens sont prêts à se mobiliser.
Oui, les gens sont prêts à se mobiliser.
Des questions sensibles, immigration, islam. Oui.
Alors, ils se mobilisent de plus en plus. Si vous voulez, pour parler vite, il y a une crise des organisations à vocation générale. Les partis, les syndicats, etc. Bravo si vous y êtes, mais je vous souhaite bon courage. Hein, parce que c'est dur, c'est difficile. L'engagement, il va, et de plus en plus chez les jeunes, faut pas dire que les jeunes s'en foutent, ça n'est pas vrai. Mais il va de plus en plus vers des organisations ponctuelles, ce que les Britanniques appellent les One Issue Oriented Movements, les mouvements à enjeu unique. Hein? Par exemple, moi je le vois chez mes étudiants, le succès, par exemple, des Restos du Cœur, mais c'est incroyable, j'ai plein d'étudiants qui se dévouent pour les Restos du Cœur. Et je les encourage. Je leur dis, mais écoutez, éventuellement, pourquoi pas adhérer à un syndicat étudiant. Les syndicats étudiants, mais c'est dramatique, c'est Waterloo, quoi. Morne pleine, hein, c'est effrayant. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils racontent n'importe quoi, voilà. Bon. Mais en revanche, ils iront se dévouer, vous voyez, pour... Et le problème pour le politique aujourd'hui, je crois, c'est très important dans le cadre de la préparation des municipales, c'est d'essayer de fédérer ces engagements qui sont des engagements qui, pour l'instant, se dispersent. Et d'être le point de confluence, voyez, le point de rencontre de gens qui prouvent qu'ils peuvent être engagés et qu'ils peuvent passer au stade supérieur de l'engagement public pour le bien public, pour le bien de leur communauté d'appartenance. Ça, c'est une piste qu'avait très bien compris. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais prof à Grenoble, je discutais beaucoup avec Hubert Dubedoux, l'ancien maire qui était un officier de marine, ancien maire de Grenoble, et qui avait créé, en dehors de tous les partis, des groupes d'action municipaux. Et il jouait complètement là-dessus. Hubert, il repérait les gens qui avaient envie de faire quelque chose, quelle que soit cette envie. Et puis ensuite, il est fédéré.
Eh bien, justement, je crois que ça tombe bien qu'on parle des nouvelles formes d'engagement, puisque l'association des maires du Lot s'engage et appelle les jeunes à s'engager, ou les moins jeunes d'ailleurs. Hein, c'est une campagne que vous avez lancée, Jean-Marc Vézousfort. Je suis citoyen, je m'engage pour ma commune. Venez nous en parler. Voilà. Et surtout, nous montrer comment on peut mobiliser à partir de ce moment qui est celui donc des municipales, hein, qui arriveront très vite, et c'est le moment de cet appel à la citoyenneté.
Oui, merci. Pascal Perrineau a rappelé à quel point l'engagement...
Oui, on peut applaudir Pascal Perrineau, bien sûr.